vous présentons dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. De joie alors que les protagonistes, les parents sont émus. Pourquoi faire semblant de s'amuser? Dans certains endroits, c'est triste, on s'ennuie, c'est grossier. Un mariage, c'est où tout le monde s'ennuie, s'efforce d'être joyeux, de vouloir rire. Alors, pour s'aider, on boit beaucoup. Cela aide à faire des bêtises qui font rire les autres. Le mariage de Jules n'est pas vulgaire. La joie est contenue, mais il est tout autant ennuyeux. Il est fatigant. À 23h, la mère va vers lui et lui dit « Il est l'heure que vous partiez. Les bagages sont dans le fiacre. Emmène ta femme. Ne dis au revoir à personne. » Jules est mu et soulagé de quitter tout ça, mais il a peur d'être seul avec Marie. Il embrasse sa mère. Va vite, mon fils. Jules va rejoindre Marie. Il vous faut partir. Elle le suit et il quitte le bal. fois dans le fjord, épuisée, Marie s'est endormie.
J'ai cru que vous ne viendriez pas.
Demi-heure plus tard, Jules l'a réveillée. Se sont arrêtés à une auberge pour changer de vêtements et dormir jusqu'au lendemain. Épuisés, tous deux dorment chacun dans leur chambre. Le lendemain matin, un domestique est réveillé pour qu'il puisse préparer au départ. Après un petit déjeuner, ils sont partis. Le fiacre, la main dans la main, tous deux regardent le paysage, une fin d'été tout en couleurs. Marie est heureuse, elle a son Jules et son bonheur la rend muette. Lui, Jules, a des difficultés à se dire qu'il a une femme, que sa femme c'est Marie. Lui, Jules marié, le Jules qui a aimé Sylvain, qui aime Alexandre, marié. Il se jure d'être un bon mari. Marie ne doit pas souffrir à cause de lui. Elle est pure. C'est moi qui ai voulu. Qui ai voulu qu'elle l'aime. Qu'elle m'aime. Donc, je dois la rendre heureuse. Le voyage se passe bien. Jules est prévenant avec elle, essaie de la distraire en lui parlant de choses et d'autres. Malheureusement, c'est tout juste s'il ose l'embrasser. Cela est la preuve qu'il ne l'aime pas vraiment. Après un voyage de plusieurs jours, ils sont allés jusqu'à Marseille en train et fiacre. Jules n'a pas voulu tout faire directement en train car il voulait montrer certaines choses et avait un itinéraire. Durant tout le voyage, ils sont restés chastes à cause de la fatigue et de l'émotion. À Marseille, ils ont pris un bateau pour la Grèce, Athènes et tout. Ils ont décidé de prendre quelques jours de repos dans une petite ville portuaire. On loue une petite maison au bord de la mer. Là, ils seront seuls et pourront commencer leur vie de couple. Après la joie et la découverte des lieux, c'est une petite ville portuaire, pas très riche, faite de maisons blanches, d'un étage, avec son église, sa place, sa fontaine, son café. La maison, on leur a loué, est une petite maison de pêcheurs toute simple, trois pièces. La salle commune, la chambre et la cuisine, meublée très simplement. Là, Jules, lorsqu'il s'est retrouvé seul avec Marie, il s'est dit que sa vie était changée, qu'il ne sera plus jamais, que ce ne sera plus jamais comme avant. Il ne sera plus jamais seul. Comment vivre intimement avec une personne? Voilà le problème de Jules. Pour Marie, la chose est simple. Elle a un mari, donc elle doit se comporter comme une femme, c'est-à-dire comme une maîtresse de maison. Son éducation lui a préparé. Heureusement, il y a les choses à faire en commun, le repas, etc. Et cela arrange bien les choses. Et puis, ils vont souvent se promener. Chacun respecte l'autre, le silence de l'autre. Il y a aussi le problème de dormir ensemble. Jules se sent obligé de faire, car pour lui c'est bien son devoir conjugal, il faut avouer qu'il n'y arrive pas. À part les caresses, le reste ne vient pas. Marie, qui est vierge, ne l'aide pas, mais comprend. Une nuit, il lui dit « Pardonne-moi, je ne peux pas ». Elle lui dit « C'est l'émotion, nous avons le temps, laissons les choses aller, je t'aime, cela me suffit. Et tu me le prouves d'une autre façon, finissons nos vacances sans chercher et oublions tout, soyons nous-mêmes, tu m'aimes, je le sais, moi aussi je t'aime ». Les jours passent et Jules est plus entendu parce qu'il ne cherche pas à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ce qu'il fait parce qu'il ne se sent pas d'obligation envers l'autre. Dans la liberté et sans se forcer, Jules devient plus tendre. Se met même à aimer, caresser Marie parce qu'il ne se sent pas obligé de le faire. Et que cela vient tout naturellement. La tendresse s'approfondit et devient plus intime. Ils se mettent à marcher main dans la main, l'un contre l'autre, et à se parler doucement. Ou à rester assis des heures en lancée. Allez voir, ils font vraiment amoureux. Marie est heureuse d'avoir un petit mari aussi gentil et qui est timide pour les choses. Car elle aurait eu peur d'avoir un mari trop entreprenant. Mais au moins, il est tout en douceur et ne la prend pas pour un objet de désir. Sa mère lui a expliqué ce que c'était que le devoir conjugal. Elle se dit qu'elle a de la chance d'avoir un mari si tendre. Le voyage de noces se continue. Très bien. Il faut malheureusement revenir et retrouver la vraie vie. Il s'en retourne, elle vierge comme au premier jour. Lui a appris à apprécier sa femme douce et tendre. Mais quelquefois il y a du remords et se demande pourquoi il ne peut pas avec Marie, alors qu'il l'a déjà fait avec sa sœur. Une femme, c'est une femme, mon Dieu! Alors pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé en moi? Ce qui a changé, c'est que malgré sa bisexualité, son corps a choisi. Mais de cela, il ne le sait. Car à son époque, ce genre de choses ne se sait. Le voyage du retour se fait malgré tout très tendrement. arrivé à Lyon, le père de Jules lui donne la maison de Lyon. Charles-André et Apolline auront un appartement chacun dans le centre-ville et les parents partent à la campagne. Jules et Marie gardent les domestiques du père et la vie commence pour eux. Jules commence ses cours au lycée. Au début, ça a été assez dur car les élèves ont commencé leur année scolaire avec un professeur remplaçant pendant que Jules était en voyage de noces. Durant ses cours, Jules reste neutre, froid avec ses élèves. Il n'ose pas les regarder. Il y a peu de différence entre lui et ses élèves et certains visages lui sont sensibles. Petit à petit, les élèves s'habituent à lui et le trouvent gentil. Pendant que Jules est au lycée, Marie s'occupe de la maison. Elle l'aménage à sa façon, la modernise un peu tout en lui laissant un côté vieillot. Elle va voir ses parents et visite quelques amis d'enfance. Avec elle, elle joue à la maîtresse de maison. Mais cela ne suffit pas pour occuper une jeune femme. Alors elle décide de devenir la secrétaire de son mari pour ses écrits et les leçons qu'il prépare. Jules est content de cette proposition, surtout que j'ai une écriture infecte et c'est difficile à me relire. Petit à petit, la vie se met donc en place. Une fois de temps en temps, il reçoit Charles-André et Apolline. Une fois que ses cours sont rodés, Jules essaye de se remettre à écrire. Le temps passe et au fil du temps, Jules s'aperçoit que son ménage n'est pas vraiment un mariage ou plutôt une union. Il aime bien sa femme mais ne la désire pas. Il n'arrive pas à faire son désir conjugal. Il se dit que pourtant Marie est belle, très belle, qu'elle ressemble à son frère. Mais non, ça ne marche pas. Il se demande ce que doit penser Marie de son manque d'entrain. Elle ne dit jamais rien, Marie, elle est si douce. Le temps passe. Jules, ses nouvelles et petits romans qu'il écrit ont un certain succès et on lui demande de faire des conférences sur son univers littéraire. Il accepte avec joie et sa femme en est très fière. Jules se réveille. Il voit Marie allongée à côté de lui, en plein dans la lumière de la lune. Elle dort. Sa chemise de nuit est ouverte et découvre une partie de ses seins, des seins blancs, étranges. Jules regarde tout ça avec émotion. Dormant, elle a posé sa main sur sa poitrine. Cela trouble Jules. Il a envie, lui aussi, de mettre la main sur sa poitrine. C'est ce qu'il fait. Il a une telle sensation de douceur qu'il a oublié toute retenue et se met à les embrasser, ce qui le chauffe. Ses mains ne répondent plus à ses ordres. Elles veulent toucher et touchent. Cela l'enivre. Marie se réveille et reste soumise. C'est le rôle de la femme et épouse. Je lui lève la chemise de nuit, se déshabille aussi et doit se passer ce qu'il doit se passer. Après cela, il est tout confus. Une traînée de sang coule le long de la cuisse de Marie. Il lui dit « Je suis navré. » Elle lui répond « De quoi ? Tu as fait de moi une femme ?» Elle a l'air plus adulte que lui. Il la prend dans ses bras et la caresse. « Je t'aime si tu savais que tu es belle. » Désormais, souvent, ils feront l'amour. Et un jour, Marie se trouve bizarre. Elle en parle à sa mère qui lui dit « Tu peux être enceinte. » Elle va voir un médecin qui le lui confirme. Elle le dit à Jules qui est heureux d'être père. Les jours passent. Marie prépare la venue du bébé. Jules continue ses cours, écrit et conférences. Il est très pris en dehors de chez lui. Comme Marie est enceinte, ils ne couchent pas ensemble et prend plaisir de coucher seul.
Par pitié, me réconforte. Et que je
Marie accouche d'un petit garçon que l'on appelle Albert. Jules est très heureux, mais il est pris et ne peut s'occuper et penser à l'enfant. Il ne peut se sentir père. Après l'accouchement, il n'a pas repris le lit conjugal. Marie s'en attriste, mais ne dit rien. Et puis, petit à petit, elle trouve Jules triste, sans fantaisie. Elle commence à s'ennuyer. Et heureusement qu'elle a le bébé à s'occuper. Un jour, sa mère vient la voir. Elle la reçoit au salon. La mère est surprise de la voir habillée de noir. « Que se passe-t-il, mère ?» La mère lui dit « Un grand malheur. Asseyez-vous. »
Ils vont s'asseoir sur des fauteuils, l'une en face de l'autre.
Je vous écoute. Nous avons reçu des nouvelles de ton frère, une certaine Carmen Dolores Garcia, nous a écrit. C'est la femme que ton frère a épousée là-bas. Elle nous dit qu'il est mort, subitement d'une maladie étrange. Il vient nous apporter sa dépouille. Marie est blanche. Alexandre mort. Mon Dieu! Et de quelle maladie il est mort? Je ne sais pas. Elle ne l'a pas écrit. Je suis bouleversée. Mon fils si jeune, si beau. Cette étrangère qui va me l'amener mort. Un cadavre. Je n'arrive pas à y croire. Marie lui demande. Et que dit père? Ton père? Je ne veux pas le voir. C'est de sa faute si Alexandre est parti. La mère sanglote. Mère, je vous comprends. Je suis moi-même bouleversée. Mon frère, mon cher frère, vous voulez vous allonger un moment? Bon, je vais partir. Je dois me renseigner sur le retour de son corps. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est à moi à le faire. Elle se lève, Marie aussi. Elle s'embrasse et Marie la raccompagne. Lorsque Jules rentre, il trouve sa femme au salon. Elle est debout et lui dit « J'ai quelque chose à te dire, mon frère. Mon frère est mort. Quoi ? Alexandre ? Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Je le vois tout tourner, vacille autour de lui. Elle le voit pâle et très ému. Elle se dit, il l'a à peine connu, à peine vu. Mais parce que c'est mon frère, il souffre de me voir souffrir cette mort. Il tient à souffrir comme je souffre. C'est très beau. Il est mort de quoi ? De maladie. Je m'en enverrai, ma chérie, et je suis de tout cœur avec toi. Il la prend dans ses bras et l'embrasse. Deux semaines plus tard, le corps arrive à Lyon avec la veuve, tout en noir, une grande femme dure. Le corps est déposé dans le hall des chambres perdries. La mère, prise de fureur, quand on lui montre son fils, ainsi demande « Ouvrez le cercueil !» Les ouvriers ouvrent le cercueil. Le corps est déjà bien décomposé. Ne reste rien du beau visage d'Alexandre. Jules a vu et sa sœur aussi. Jules manque de s'évanouir et se dit que la mort est cruelle d'avoir enlaidit un si joli visage. On referme le cercueil. La mère furieuse se met à crier à la femme d'Alexandre. Allez-vous-en, c'est vous qui l'avez empoisonné. Allez, allez-vous-en, partez. Je vous déteste, vous maudit, vous avez tué mon fils. La femme se sauve en courant. Elle ne la reverra jamais plus. Il ne saura jamais de quoi est mort Alexandre dans ce pays où tout peut arriver. Il a été enterré. Son frère lui a fait un grand choc et lui a rappelé des souvenirs, démontré qu'elle l'aimait. Vous, elle l'aimait, ce beau garçon si gai, si gentil, qui l'embrassait constamment. Même à certains moments, ils ont failli s'abandonner. Elle voit son visage, son corps, et compare avec son mari. Elle le trouve plus fade. Tous deux dans leur coin, on pensait la même chose, en revoyant la même chose. Ce beau corps, ce beau visage, Jules a comparé avec Marie et se dit qu'elle est moins belle que lui. Mais ni l'un ni l'autre n'en parle. Jules la laisse à son chagrin, ce qui permet de le pleurer en paix. Le temps passe. Charles-André vit seul et s'ennuie. Il habite en quatre pièces dans un immeuble moderne à Vuxax, qu'il a meublé avec très peu de meubles, mais des meubles de prix et de goût. Commode japonaise dans son entrée, salon Louis XVI blanc, bureau Empire, salle à manger Louis XV et chambre moderne fin 19e. Depuis qu'il vit seul, ça n'est pas comme chez ses parents. Il range tout, rien ne traîne. Après son travail, il rentre directement chez lui, comme si une personne l'attendait. Et une fois chez lui, il écrit. nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.